You're listening to CKUT. The following is a previously broadcast program. Stay tuned.
Welcome back to another edition of La Hora del Ruido. My name is Jose Podrido, and you are listening to CKUT 90.3. Today, I'm going to be playing a quick set list of new releases that I came across lately. The first song comes out of a demo from a band from Indonesia called Ox. This song is called Metode Adiksi.
Bonjour tout le monde, c'est Lynn qui vous parle. Bienvenue à votre émission Café du vendredi soir. On vous parle de culture montréalaise et québécoise, comme tous les vendredis. Donc, je suis avec Charlotte en studio. Bonjour Charlotte.
Bonjour Lynn.
Alex devait nous joindre, mais elle a malheureusement eu un empêchement. Elle va peut-être nous envoyer de la musique au fur et à mesure de l'émission, donc elle sera présente de cette manière-là. Mais voilà. Donc aujourd'hui, une super émission. Je suis quand même excitée. On a deux belles entrevues. On parle de films, on parle de shows, de pièces de théâtre. Premièrement, je vais demander de te présenter Charlotte parce que elle va collaborer avec nous dans les prochains mois, on l'espère. Donc, te présenter un petit peu.
Oui, certain. Je m'appelle Charlotte. J'adore le théâtre, la culture, la musique, l'art en général. Je suis une fan de l'émission et puis j'ai un background en design, en art visuel. Puis je suis très heureuse de pouvoir participer en donnant mon petit grain de sel sur comment je trouve les œuvres que j'ai vues récemment.
Oui, on est très contente de t'avoir avec nous, puis c'est ça, d'apprendre à mieux connaître aussi ton ce que tu aimes artistiquement, puis culturellement, puis que tu nous partages. Donc merci d'être là.
Merci.
pour parler un petit peu de ce qu'on va discuter aujourd'hui dans l'émission, je vais vous parler d'une performance à laquelle j'ai assisté lundi qui s'appelle Leaky Imitations à la Chapelle Scène Contemporaine. Je vais vous présenter l'entrevue de la personne qui a chapeauté un peu cette performance-là et qui l'a interprétée, donc Lara Oudjian. Ensuite, je vais vous parler de quelques petits trucs, dont un film, un ciné-club, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse, mais que je veux quand même ramener parce que je trouve ça fantastique qu'il y ait des choses comme ça qui existent. Et ensuite, Charlotte va parler de la pièce « Nos Cassandres », c'est ça?
Exactement.
Que tu es allée voir avec Alex cette semaine, j'imagine.
Oui.
Et tu as interviewé le metteur en scène, donc Frédéric Dubois. Donc, on va diffuser cette entrevue-là également. Et tu vas aussi nous parler d'un film que tu as vu qui s'appelle Anselme. Donc, une belle émission devant nous. C'est bien excitant. Donc, je vais vous parler, c'est ça, de Leaky Imitations, la performance à laquelle j'ai assisté cette semaine à La Chapelle. C'est une performance de Lara Oudjian qui a fait beaucoup de choses dans cette performance-là. Donc, la chorégraphie, la performance, une partie de la conception sonore et une partie de la scénographie. Elle a aussi été aidée de Day Courtney à la conception sonore et Isabella Leone à la scénographie, qui étaient quand même des grosses parties de la performance. Et ça, on était très immergés dans tout le contexte sonore. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je viens de dire. Mais dans le fond, c'était très spécial. Il y avait aucune narration, il y avait pas de personne ne parlait. C'était pas une pièce de théâtre, c'était vraiment une performance. Lara, elle a étudié à Berlin, entre autres à Stockholm, la danse contemporaine et la performance. Son travail a été présenté à Montréal, à l'OFTA, à Tangente et au Festival Phenomena, Summer Works et Lots of Love. Elle a été artiste en résidence au projet du 3e à l'usine C de 2019 à 2021 et à la Serre de 2020 à 2021. Elle est très polyvalente là, quand on lit son CV un petit peu, là, c'est impressionnant. Elle s'intéresse au corps, à la temporalité, au croisement entre l'espace digital et l'espace physique, les narrations expérimentales ou les non-narrations. Lara aborde la danse comme une pratique de la relationalité, le corps étant dynamiquement entremêlé avec son environnement à travers l'attention et la sensation. Donc, c'était vraiment intéressant de regarder ça. On pouvait vraiment l'interpréter comme on le souhaitait. Là. C'était... comment je pourrais décrire? Elle jouait vraiment avec les objets qui l'entouraient et entre autres beaucoup avec l'eau. Par exemple, elle a commencé la performance en buvant probablement comme 2 litres d'eau d'un coup, tu sais, sans arrêt. Puis donc, comme son ventre était plein d'eau, elle s'est allongée par terre et elle a fait comme des mouvements avec son ventre qui faisaient que l'eau bougeait. Puis là, elle a mis le micro contre son ventre. Fait qu'on entendait l'eau dans son ventre comme fort, tu sais. Puis ça faisait genre poum, 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 poum. Puis c'était comme des gros sons. Puis c'était très drôle, tu sais. Il y avait comme un aspect qui était très pas pris au sérieux. Puis ouais, très drôle. Fait que ça, c'était vraiment intéressant de comment utiliser la manière dont les choses s'entremêlent pour faire du son. Puis après ça, elle avait comme un looper, que je pense que ça s'appelle, un appareil où tu enregistres du son, puis dès que tu arrêtes d'enregistrer, il se répète, en fait. Puis c'est ça qui faisait une partie de la conception sonore. Donc c'est super intéressant. Puis après ça, pourquoi j'ai nommé Day Courtney, c'est que apparemment, c'est ça, il y a eu vraiment une conception sonore intéressante avec beaucoup d'éléments qu'on pourrait ne pas s'attendre. C'était pas juste de la musique, c'était vraiment des sons, d'eau, des sons d'impact. Je ne sais pas comment exactement le décrire. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Ça a vraiment accompagné sa performance. Donc, c'était super. C'est ça. Puis j'ai donc interviewé Lara, puis on a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Donc, je vous la présente tout de suite. Fait que oui, moi, j'étais à la première lundi.
Donc, super.
Félicitations. Est-ce que tu trouves que ça s'est bien passé? Est-ce que tu es contente de comment ça s'est passé?
Oui, oui, la première s'est vraiment très bien passée. On était très contentes, moi et toute l'équipe. C'est tous les petits timings, les petits choix qu'on voulait faire, ça s'est bien déroulé. Ça a aussi amené beaucoup d'informations, d'avoir vraiment un public, comme un grosse foule, je veux dire, parce que la public fait un peu partie de scénographie et de toute l'écologie. De mouvement et de regard entre moi et le public. Alors, ça a vraiment nourri le spectacle et ça m'a beaucoup appris sur qu'est-ce qu'on fait ensemble.
Mm-hmm. Oui, c'était une de mes questions. Et qu'est-ce que ça change, en fait, de que le public soit vraiment intégré dans la scène plutôt qu'il soit dans les sièges comme normalement? Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta performance?
Oui, mais c'était un choix qu'on a fait à peu près une moitié dans le processus. Alors, d'abord, c'était plus frontal, mais on s'est vraiment rendu compte que cette intimité était importante pour que les pratiques de mouvement soient plus senties et moins visuelles. Et pour moi, ça m'amène, ça nourrit tout le spectacle. Et pour la plupart, le spectacle est construit des sections, des partitions improvisées. Et cette proximité, cette intimité-là, ça nourrit le mouvement.
Mm-hmm.
Pour moi.
Et j'ai vu que tu avais de l'expérience en performance dans plusieurs autres villes, à part Montréal. J'ai vu Berlin, Stockholm. Est-ce que tu as remarqué des différences culturelles dans le monde du spectacle ou même dans la façon dont les spectateurs se comportent? Peu importe, est-ce que tu as remarqué des différences quand tu performes dans ces villes?
En fait, j'ai jamais performé à Berlin et Stockholm. C'était les endroits où j'ai fait des études où je me suis formée. Mais oui, j'ai noté des différences culturelles qui ont nourri ma processus en tant qu'artiste. Comment les décrire? C'était à Berlin où j'ai été très exposée aux pratiques somatiques et aussi aux possibilités multiples et expérimentaux de qu'est-ce que c'est la performance.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce que c'est la danse. En fait, quand j'étais là, c'était en 2016 et 2017. Alors, entre guillemets, les choses ont peut-être changé. Peut-être que je parle de l'ancienne Berlin. Mais j'ai noté que c'était très, très rare. On parlait de la danse, on parlait de mouvement, mais c'était très rare quand les gens performaient. Ils n'utilisaient pas si souvent le mot chorégraphie ou le mot danse.
Mmh.
Ils disaient plus performance. Ils disaient très souvent performance. Et je parle aussi de Berlin un peu laborantien, underground, où il y a les professionnels qui jouent dans les grandes salles comme le... Ça s'appelle quoi? Oh mon Dieu, j'ai oublié. les grosses théâtres. En tout cas, je m'excuse, j'ai oublié le nom. Hauspiel. Schauspiel. Bon. En tout cas, dans le milieu vraiment professionnel, à Berlin, les gens de ce milieu se mélangent complètement avec les gens plus underground. Mm. C'est vraiment incroyablement non linéaire et chaotique. Et ça, c'est incroyable. Et tout le monde disait le mot performance et pas chorégraphie. Alors qu'à Stockholm, ça a été. Mais les études que j'ai faites. Oui, les études que j'ai faites étaient plus basées en fait sur. C'était moins intuitif et plus basé sur la théorie et de vraiment considérer qu'est-ce que c'est la chorégraphie, de vraiment penser en tant que ces termes-là. Et il y a une clarté des idées. C'est beaucoup moins chaotique à Stockholm. Mais chaque idée qui est lancée dans le milieu a un poids parce que tout le monde le regarde et le considère. Mm. Parce qu'il y a une manière de s'organiser intellectuellement et socialement qui est différente. Alors ces deux environnements étaient vraiment riches pour moi.
Mmh, ouais, c'est intéressant. Est-ce que c'est possible qu'à Berlin, ils disent performance pour englober plus de choses parce que c'est peut-être plus polyvalent que juste de la danse ou...
Justement.
Ouais.
Mmh. Et parce que c'était le fait d'être en performance. Pour beaucoup de monde, j'avais l'impression, OK, je parle, peut-être que les gens de Berlin vont me dire que j'ai tort, mais j'ai l'impression que l'état d'être en performance, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup les propositions performatives.
Mm.
Il y a des structures et des pratiques qui sont pensées, qui sont recherchées, mais c'est aussi beaucoup le fait d'être en performance qui nourrit ouais, les propositions. J'avais l'impression. Alors qu'à Stockholm, oui, c'était ça. Aussi, c'était pas invisible, mais toutes ces manières de penser à la danse de manière plus large, c'était mis dans un contexte de qu'est-ce que ça peut être la chorégraphie, mm-hmm. et pas qu'est-ce que ça peut être la performance. Je ne sais pas. Ouais.
Ouais, je comprends.
On a parlé du fait de ne pas être seule. Dans le processus, et je voulais juste ajouter que de faire un spectacle avec les enjeux féministes et les enjeux de l'intimité, ça prend le processus de rencontre artistique. Mmh. Ça nourrit, ce processus, ça nourrit la performance. Donc,
pour avoir plusieurs perspectives différentes des gens autour.
Ouais. Oui, et juste l'intimité de collaborer, l'intimité de discuter, de faire des compromis, d'apprendre sur les idées, sur les intuitions des autres, de créer ensemble. Cette intimité-là est importante pour les processus féministes. Et aussi, juste ça, j'ai vraiment noté le lien entre cette expérience et les pratiques de mouvement qui ont des enjeux d'intimité et d'écoute,
mm-hmm.
Qui se trouvent dans la pièce.
Donc, c'était l'entrevue avec Lara Oudjian, qui était performeuse de la pièce Leaky Mediations, qui était présentée à la Chapelle cette semaine. Les représentations sont malheureusement terminées, mais restez à l'affût de leur page Instagram ou sur leur site Internet. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent et je vais probablement en parler quelques fois en ondes. Donc, ensuite, je voulais vous faire écouter une toune que j'ai découverte, qui n'est pas québécois, malheureusement. C'est français, mais c'est trop bon. pour pas que je vous la fasse écouter. Ça s'appelle La Symphonie des éclairs de Zao de Zagazan. Et ça parle de l'hypersensibilité, de, en fait, comment elle a découvert que ça pouvait être une force dans la musique d'être hypersensible. Et c'est fantastique. Donc, je vous fais écouter ça tout de suite.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Donc c'était la symphonie des éclairs de Zao de Zagazan. C'est simple, je l'écoute à peu près 8 fois par jour depuis 2 semaines. Donc je trouve les paroles tellement belles, la façon dont c'est écrit. Puis elle a dit qu'elle avait passé des années à composer la chanson, puis à trouver les paroles exactes, t'sais, pour que ça reflète vraiment qu'est-ce qu'elle ressentait. Donc je trouve ça assez impressionnant. Je vais encore vous parler quelques minutes. J'ai découvert, comme beaucoup de monde en fait a découvert ce mois-ci grâce à un article dans la presse, un ciné-club qui s'appelle La Seine, C-E-N-N-E. C'est situé à côté du parc Jarry sur le boulevard Saint-Laurent. En fait, moi, je suis fan des OBNL dont la mission est de promouvoir la culture, le cinéma. J'étais vraiment heureuse de découvrir cet endroit-là qui est pas seulement un cinéma, seulement un ciné-club. Ils font plein de choses. C'est entre autres un incubateur de projets. C'est un espace, en fait. C'est un local qui a beaucoup de fonctions, dont le ciné-club dont je vais vous parler. Et je trouve ça génial parce que, tu sais, comparément à un cinéma qui projette le même film, tu sais, des dizaines de fois, eux, c'est une fois, tu sais, c'est vraiment une soirée. Si tu veux pas manquer le film, faut que tu sois au courant. Puis il n'y a pas énormément de places non plus, là. Je pense qu'il doit y avoir une trentaine de places maximum. Et à chaque fois, en fait, ils réussissent. Leur mission, c'est vraiment d'inviter la personne qui a réalisé le film à chaque fois qu'ils présentent un film. Donc, ça fait nécessairement que t'es une OBNL, ça n'a pas nécessairement énormément de budget. Fait que ça fait que c'est des réalisateurs qui ne sont pas demandés partout, disons. Donc, ça fait que les films, c'est peut-être un peu plus des films underground, des films qu'on n'aurait pas vus si c'était pas de ce ciné-club-là. Fait que déjà là, je trouve que le travail de programmation est tellement important puis tellement le fun à faire, tu sais, de chercher les petites perles qui se cachent puis d'inviter les gens qui ont fait ces films-là qui n'ont pas nécessairement été diffusés à plein d'endroits puis de faire connaître ce film puis de donner la parole à l'artiste aussi. Et là, moi, je suis allée voir Irlande, cahier bleu de Olivier Godin. C'était vraiment le fun. Fait que je vous conseille vraiment... d'y aller puis de réserver à l'avance parce que je pense que les billets vont se vendre rapidement dans les prochaines fois qu'ils vont faire un film, là. Ben, une projection. La dernière fois, il était vraiment surpris là, d'arriver à remplir la salle puis il était comme bon, merci la presse parce que clairement que genre le trois quarts des gens qui étaient là avaient appris l'existence grâce à la presse, dont moi. Mais ça, je trouve ça tellement le fun que ça existe, puis je trouve que c'est tellement le fun à encourager parce que c'est extrêmement abordable aussi. Là. Je pense qu'admission générale, c'est 10$. Pour les étudiants, c'est 7$. C'est vraiment le fun de pouvoir voir des films à ce prix-là, d'être dans une ambiance très conviviale, de pouvoir avoir une discussion avec l'artiste. C'est super accessible. Je suis complètement fan. Donc voilà, La Scène, C-E-N-N-E. Et si vous voulez aller voir ça... ensuite, Charlotte, je te passerai peut-être la parole. Est-ce que tu veux nous parler de la pièce que tu es allée voir avec Alex cette semaine?
Oui, absolument. Pardon. Je suis allée voir Nos Cassandres à l'Espace Libre. C'était la première médiatique. C'est une pièce, en fait, qui est à propos de Joanne Liu. Qui a été à la tête de Médecins sans frontières pendant des années, qui est une médecin, pédiatre. Je pense que ses titres sont encore plus larges que ça. C'est une pièce, en fait, qui était supposée être à propos de la COVID, de l'épidémie de la COVID. L'idée est née pendant la pandémie, bien sûr. En travaillant avec... Anne-Marie Olivier et Frédéric Dubois, ils ont décidé les trois ensemble de plus s'orienter sur le parcours en général de Joanne Liu parce qu'elle a un parcours exceptionnel, digne vraiment d'une série avec beaucoup d'épisodes. Et puis, c'est une pièce que j'ai vue avec Alex, justement, puis ça a été très bien... On a vraiment bien reçu la pièce. Le jeu des acteurs était excellent. Une mise en scène, pas compliquée, mais qui faisait parfaitement la job, qui était assez théâtrale. Vous allez en savoir un peu plus avec ma discussion avec Frédéric Dubois. On est ressorti de là avec un peu un sentiment de courage ou d'espoir parce que on vit tellement dans une période chargée avec ce qui se passe mondialement, politiquement, avec l'aspect aussi des nouvelles qu'on a de partout dans le monde maintenant. T'sais, on est au courant de toutes les problèmes qui se passent dans le monde, alors qu'avant, on était un peu plus inconscient. Donc, comment faire pour vivre avec toutes ces choses qu'on sait? La pièce parle aussi, entre autres, de ça. Et c'est vraiment d'autant plus pertinent avec les conflits qui se passent présentement en Ukraine et, bien sûr, avec Israël et la Palestine. Là encore, il va y avoir un petit peu de détails que Frédéric va nous parler dans l'entrevue.
Oui, je trouve ça vraiment intéressant, ces sujets-là. Ça m'a interpellée là, quand tu as mentionné comment on fait pour vivre avec tellement d'informations parce que à la fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent un peu cette pression de repartager l'information. Tu sais, je sais que bon, dans mon cercle c'est beaucoup Instagram, puis là si tu repartages pas telle nouvelle ou telle levée de fonds, c'est comme tu ressens vraiment une responsabilité. Mais c'est, j'ai l'impression que c'est malsain un peu parce que là ça fait que c'est une journée, tu as envie de plus te couper de ça, mais là tu vas te dire mais attends, c'est quelque chose que je dois repartager, ou t'sais, cette pression là ça peut aussi s'empêcher de faire des pauses qui sont nécessaires des fois, puis de s'écouter. Puis bon, je sais pas si vous avez peut-être remarqué là, mais j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur mon Instagram. Je vais plus du tout sur Instagram parce que c'est devenu comme trop, puis justement je savais pas comment gérer ça.
Oui. Puis on a une pression, effectivement, avec les médias sociaux qu'on utilise. Puis il y a des gens aussi qui ont une vision de « il faut tout partager constamment, systématiquement, dès que ça parle de conflit ». Mais en même temps, il y a beaucoup plus de manières, beaucoup plus larges d'intervenir à l'échelle à laquelle on peut aussi. Parce que c'est ça qui est magnifique avec la vision de Joanne Liu, c'est qu'elle est dans un immense respect de chaque petit élément qu'on peut faire en tant qu'individu qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas politiquement importants, entre parenthèses, et qu'il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Puis, tu sais, par exemple, là, juste d'avoir une émission de radio puis de parler de la culture puis d'aborder ces sujets-là, de ne pas en faire un tabou, ça fait partie d'un processus pour aider aussi à régler le problème, ben, ou à aborder le problème, puis à ne pas l'ignorer. Puis aussi, ben, l'art, en général, c'est une grande source de guérison, puis de ça aide à croire en l'humain.
Ben oui, vraiment. Puis tu sais, mon avis aussi, c'est que si on est au courant de tout, mais qu'on est toutes déprimées, ça avance pas plus le monde, tu sais, d'avoir une gang de personnes déprimées, mais on est au courant, tu sais, je trouve pas que ça... Je trouve pas ça utile, tu sais, quand on est déprimé, on n'a pas d'énergie pour aller faire de l'activisme ou juste, tu sais, discuter avec les gens, tu sais, dans les conversations, il y a tellement de choses qui sont transmises aussi. Fait que c'est ça, un petit rappel santé mentale de faire attention à ce que vous consommez, puis de vous écouter quand vous sentez que c'est trop, tu sais, de se détacher un petit peu, des fois ça peut être nécessaire. Fait que, qu'est-ce que tu dis qu'on écoute ta discussion avec Frédéric?
Oui, partons l'entrevue.
C'est parti.
Salut Frédéric Dubois.
Bonjour.
Alors, comédien, metteur en scène, prof à l'École nationale de théâtre. Aujourd'hui, on se parle pour la mise en scène que tu as fait de Nos Cassandres, qui est présentée au Théâtre Espace Libre du 16 janvier au 3 février 2024. Oui. J'aimerais commencer par te poser la question un peu sur le processus que ça a été pour vous, pour toi, puis l'équipe, avec Anne-Marie Olivier qui a écrit la pièce, puis Joanne Liu qui est le centre de l'univers de la pièce.
Oui, c'est bien dit, le centre de l'univers. Mais en fait, ça a commencé parce que j'avais invité Joanne à venir donner une conférence à l'École nationale aux étudiants. Puis ça avait été un show rock, là. Tu sais, Joanne, quand elle est en conférence, elle est exceptionnelle, puis elle a un parcours professionnel inimaginable, là. C'est vraiment digne des meilleurs films d'Hollywood, là, je dirais. Bon, elle a quand même été présidente internationale de Médecins sans frontières. Et donc, je me suis lié d'amitié avec elle. Puis plus tard, pendant la pandémie, je l'ai recroisée. Puis, bon, on avait vu dans les journaux, tu sais, des articles qui disaient qu'elle n'avait pas été sollicitée pour contribuer à la mise en place de programmes sanitaires pendant la pandémie parce que, bon, elle a du caractère, puis tout ça, tu sais. Puis le gouvernement, c'est pas servi de ses connaissances. Bon, et tout ça. Fait que quand je la croise, elle est un peu là-dedans, puis bon, je dis comment ça va et tout, puis elle me dit, ben, ça va moyen, c'est tough, la pandémie. Puis je dis, ouais, ça va-tu finir bientôt? Elle dit, ah non, ça sera pas fini bientôt. Puis là, bon, tout ça est un peu déprimant, mais elle me dit, il faudrait qu'on fasse un show avec ça. Fait que je prends la balle au bon, puis je dis, ben, OK, faisons ça. Puis, m'est venue le lendemain l'idée d'appeler Anne-Marie Olivier, parce qu'Anne-Marie Olivier, elle fait du théâtre comme de cueillette qu'elle appelle, en fait. Elle fait du théâtre à partir de témoignages, de courtes histoires qu'elle va ramassée autour d'elle. Elle fait des appels à tous pour couvrir des sujets. T'sais, elle a fait une pièce sur l'amour, elle a fait une pièce sur le deuil. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle va rencontrer des gens, les enregistre, puis à partir de ça, elle crée de la fiction. Parce que de toute façon, moi, je voulais pas être dans le théâtre documentaire. Donc, je trouvais qu'Anne-Marie, c'était comme un beau pont, là, justement, pour pouvoir comme couvrir le travail de Joanne, mais de le transvaser dans la fiction, puis que ça devienne une autre histoire, en fait, que ça devienne du théâtre et pas du documentaire. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis là, ben, on a fait toutes sortes de rencontres. Anne-Marie a rencontré Joanne. Elle a donc ramassé toutes ces histoires-là, faire sa cueillette. Puis c'est comme ça que le projet est né. Puis c'est comme ça que le projet s'est écrit. À partir donc de toutes ces histoires de professionnelles de Joanne lors de, ben de sa petite enfance jusqu'à aujourd'hui.
Oui, puis ça met le défi encore plus grand pour toi en tant que metteur en scène de devoir travailler avec plusieurs époques, différents moments de sa vie, différentes histoires, différents moments cruciaux. C'est aussi entremélangé du concept de Cassandre, qui est une histoire mythologique très intéressante. Puis le parallèle est très bien affiché dans la pièce, ça fait que ça t'a donné beaucoup de défis, j'imagine.
Ben, c'est-à-dire que oui, absolument. Parce que quand on est en création aussi d'un texte qui n'existe pas, c'est toujours très vertigineux. C'est un univers qu'on connaît pas, c'est un univers qu'il faut qu'on trouve ensemble et tout. Puis oui, la figure de Cassandre est arrivée un peu comme un liant dans tout ça. Quand Joanne nous racontait ses histoires à Médecins sans frontières, puis toutes les histoires de représentation politique qu'ils ont essayé de faire devant le gouvernement, devant l'ONU, devant le président des États-Unis, tu sais, sur l'Ebola, par exemple. Quand l'Ebola est arrivé en Afrique au milieu c'est vers 2015-2016, puis qu'ils ont dit, écoutez, ça va être gros là, c'est grave. Ça a pris 6 mois avant qu'on commence à les écouter, puis qu'on commence à considérer l'opinion de ces gens-là. Quand il y a eu le bombardement sur l'hôpital de Kunduz en Afghanistan, l'hôpital de Médecins sans frontières, ils ont soulevé l'idée que si les pays commencent à briser les ententes de Genève, les conventions en temps de guerre, ben ça pourrait devenir problématique. Et ils avaient raison. On le voit maintenant avec Gaza, on le voit avec ce qui s'est passé en Ukraine. Les hôpitaux sont bombardés maintenant et c'est plus des lieux protégés. C'est très grave. Donc, c'est des lanceurs d'alerte. C'est ceux qui savent, ceux qui sont sur le terrain, qui agissent, qui porte une parole. Et donc, Cassandre, c'est une figure donc de ça, tu sais, de celle qui sait, qui avertit et que personne ne croit. Fait que dans la mythologie grecque, c'est super intéressant, cette figure-là. Fait qu'on a comme fait ce parallèle-là. Ça nous a facilité la vie, justement, pour amener le spectacle dans un aspect beaucoup plus fictionnel, de le sortir du documentaire, puis vraiment d'amener sur scène une ouverture, une largeur théâtrale qui, moi, est un univers qui m'intéresse plus que le documentaire ou le réalisme. J'aime le théâtre qui est théâtral. J'aime le théâtre qui utilise les mécaniques du théâtre pour raconter une histoire. Donc, à partir de ce moment-là, ça a dénoué plein de choses. Puis là, bon, on est tombé dans un vocabulaire beaucoup plus évocateur qui, moi, m'intéresse. Puis là, on a trouvé notre histoire.
C'est complètement génial, puis en fait, ça me fait sauter à la question de l'actualité présentement que tu as abordée avec ce qui se passe avec l'Israël, la Palestine, l'Ukraine et partout ailleurs dans le monde. Est-ce que ça fait partie un peu de la discussion avec les comédiens, avec dans l'équipe?
Constamment. Oui, constamment parce que... En fait, l'actualité nous rattrape toujours. Là. Puis là, effectivement, on a commencé à répéter Gaza a commencé. Quand on a commencé à écrire, le show, l'Ukraine a commencé. Donc, on est constamment. On dirait que ça marche en parallèle, cette histoire-là. Puis, tu sais, Joanne, elle, même si elle n'est plus présidente de Médecins sans frontières, elle continue à être très impliquée dans l'organisation. Elle va encore faire de la job de terrain. Ce qui fait que, des fois, tu sais, pendant qu'on était dans le processus, elle partait, puis là, elle était rendue dans des trains en Ukraine pour faire des hôpitaux de guerre, pour aller chercher des malades dans des villes bombardées pour les ramener vers Kiev. Elle n'est pas allée à Gaza, mais tu sais, ils ont des antennes là-bas, ils ont des gens à qui ils parlent. Fait que, c'était très étonnant, justement, quand, par exemple, on travaillait la scène de Kunduz, celle que je mentionnais tantôt, tu sais, de l'hôpital bombardé à Kunduz. Immédiatement, tu sais, on faisait lien avec l'actualité, ce qui se passait à Gaza, tu sais, on voyait les enfants, on voyait cette ignominie-là, tu sais, de bombarder un hôpital. Puis Joanne nous disait que les hôpitaux, c'est supposé être un endroit sécuritaire, justement, tu sais. C'est supposé être un endroit pour se reposer, puis en temps de guerre, c'est essentiel. Donc, oui, ça fait partie de toutes nos réflexions. On s'est demandé, tu sais, jusqu'où on allait, tu sais, sur le. Mais, tu sais, sur l'ajout de ça dans le texte, mais nous faisant les parallèles, on s'est dit, les gens dans la salle, ils vont les faire. C'est sûr et certain, tu sais.
Absolument.
Ils vont, ben ouais, ils vont penser à Gaza, ils vont penser à l'Ukraine. On baigne dedans, tu sais, c'est sûr et certain. Ouais.
C'est ça, puis je pense que je peux le confirmer en ayant vu le show. Ça a tout de suite été dans nos discussions après quand on a fait un peu la revue du show. Puis on se disait que pour vous, ça doit vous amener, toi, les comédiens, aussi Anne-Marie, Olivier. Ça a dû vous amener à des réflexions beaucoup plus près de réflexions sur comment la politique fonctionne, sur les débats politiques, sociaux, etc. Puis comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut faire des petites actions. Passer par l'art, c'est immense. Joanne Liou parle beaucoup de ça aussi. Ça dit, c'est aussi un des beaux moments de la pièce qu'elle mentionne que c'est une des seules choses qui pour elle l'amène à recroire en l'humain quand ça va pas, là.
Exact. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontrée aussi, hein, tu sais, parce que elle me disait, tu sais, que quand elle venait à Montréal, quand elle était présidente de Médecins sans frontières, quand elle venait à Montréal 2 jours, sur les 2 soirs qu'elle était là, elle allait au théâtre un soir. La scène qu'on raconte dans la pièce où elle demande à son amie d'aller voir du Gauguin au musée, du Cézanne, pardon, c'est arrivé, tu sais, elle dit, tu sais, que, puis ça aussi, cette idée-là est venue d'une conversation aussi avec les élèves à l'école quand elle était venue rencontrer les élèves, parce que justement, elle nous racontait toutes ces histoires-là, puis les élèves disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, on se sent hautement inutile, puis disait, est-ce qu'on est au bon endroit dans une école de théâtre? Est-ce qu'il faut qu'on aille ailleurs? De quelle manière on peut essayer? Puis elle disait, non, vous êtes essentiel ici. Elle le disait bien, en fait, elle disait, ceux qui agissent ont besoin de ceux qui racontent. Puis ça, je trouve ça vraiment beau, tu sais, cette image-là. Puis elle le dit aussi, puis ça aussi, c'est très vrai que tous les gestes comptent. T'sais, à un moment donné, elle fait dire au personnage dans la pièce, à son amie, élever 3 enfants avec une conscience sociale, ça compte.
Oui.
C'est ça qu'il faut. T'sais. Donc, élever la curiosité des gens, élever les débats au-dessus des polémiques, contribuer à ça, lire, se renseigner, être curieux, voir la beauté, accepter aussi la poésie. Je pense que ça, tu sais, il y a quelque chose de ça aussi, tu sais, je pense qu'il peut être utile. Puis Joanne, elle dit ça, c'est une médecin et c'est la prescription qu'elle nous donne. Donc, il faut la prendre. Puis nous, c'est ça qu'on a voulu faire, en fait, tu sais. On a voulu donner on a voulu être son porte-voix, en fait, pour que les gens entendent ce qu'elle dit, comment elle pense, cette femme-là, dans sa tête. Puis la mettre dans un espace qui était comme, poétique et onirique, tu sais, qui laisse de la place, puis qui crée des images, puis c'est un, tu sais, on fait ça en toute humilité, puis on sait, puis moi, j'ai jamais cru que le théâtre changeait le monde, là, tu sais, mais je pense que je pense que je partage vraiment cette pensée-là de Joanne, c'est-à-dire que si tu changes une personne, ben, c'est le mouvement qui compte.
Oui, puis je trouve que la pièce est un exemple parfait de ça. Puis c'est justement avec le côté très lyrique, très théâtral de la mise en scène, on est vraiment dans le jeu. On sent pas le documentaire, on sent que c'est
Non.
de la fiction. Puis c'est là aussi que on rentre dans quelque chose de plus artistique, tu sais. D'ailleurs, il y a même de l'humour dans la pièce. Puis
Oui.
ça fait du bien, puis il y a du mouvement, il y a du déplacement. C'est vraiment, en tout cas, Merci pour ton temps. Merci
Bien,
pour
merci.
la pièce.
Quel plaisir. Merci d'être venu.
Ben oui.
Pensons le mot.
Oui, on passe le mot, on participe comme on peut.
Oui, exact. Super. Ben, merci beaucoup.
Bonne soirée.
DemArt Center is pleased to present When Big Man Talk, the exhibit. Come experience a captivating fusion of paintings, photography, an immersive virtual reality experience and more. To kick off the exhibit, Jam Arts is presenting the film African Redemption, The Life and Legacy of Marcus Garvey, screening January 31st at 7 p.m. at the Maison de la Culture Côte des Neiges. Then experience When Big Man Talk, the exhibit, from February 3 to 10 at Galerie Lucie Michel, and after that from February 11 to 14 at the UNIA. For tickets, call 438-507-9258 or head to jam-montreal.com and click Jam Arts Center. Le 25 janvier, à 20h, la Cinémathèque québécoise présente Gashrat. Gashrat, c'est Kelly, Tara, Chelsea et Gabby. Gashrat remet les pendules à l'heure. Gashrat se souvient d'un Montréal disparu. Gashrat est la convergence d'esprits qui se méritent. Gashrat est un groupe de rock. Gashrat est de retour le temps d'un concert, pour un soir seulement. Procurez-vous vos billets dès maintenant au cinémathèque.qc.ca. Une co-présentation de la Cinémathèque québécoise et de ses CQUT. Le 25.
Alors, avant les petites pubs, on entendait Frédéric Dubois, avec qui je me suis entretenue, qui a fait la mise en scène de « Nos Cassandres », qui est présentée à l'Espace Libre jusqu'au 3 février 2024. Répéter que Frédéric Dubois, encore merci à lui, est comédien, metteur en scène et prof à l'École nationale de théâtre.
Fait que, parfait! Super, c'était full intéressant. Puis, jusqu'à quand est-ce que la pièce est en train de jouer? Est-ce que...
Oui, c'est ça, ça se termine le 3 février. Puis après ça, elle va se promener, elle va aller à Québec et je ne sais pas s'ils ont d'autres trucs de prévu après ça.
OK, super. Mais merci beaucoup pour cette petite capsule. Est-ce que maintenant tu voulais nous parler du film Anselme? Je ne sais pas si je le prononce bien dans le fond. Là.
Oui, je vais vous en parler. Je pense que ni toi ni moi, on peut le prononcer comme il faut, car nous ne parlons pas allemand. Mais je pense que ce que j'ai cru comprendre pendant le film, c'est qu'ils disent Anselme.
Anselme.
Mais alors, le film s'appelle Anselme, le bruit du temps. C'est un film documentaire un peu... docu-fiction qui a été fait par le cinéaste allemand Wim Wenders.
Est-ce que tu veux qu'on écoute la bande-annonce?
Absolument, s'il vous plaît.
Super.
Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Warum gibt es diese Leichtigkeit?
Without the help of architects or engineers, Kiefer and his assistants have turned this.
Alors, vous avez bien compris que c'était la bande-annonce de Anselme, Le bruit du temps. Alors, le cinéaste Wim Wenders Peut-être que certains le connaissent pour ses chefs-d'œuvre de fiction comme L'ami américain, Paris, Texas, Les ailes du désir ou son plus récent, juste avant Anselm, c'est Perfect Days. Il a aussi fait des documentaires, d'autres documentaires comme Pina sur Pina Bausch, la danseuse et chorégraphe contemporaine, et Buena Vista Social Club, qui est sur la musique cubaine. Ici, Wenders s'attarde à l'artiste allemand Anselm Kiefer. En fait, Kiefer, c'est un artiste qui est dit plasticien contemporain, dont la carrière a débuté en 1969 et qui est encore active à ce jour. Alors, sacrée grosse carrière. Le film fait des oscillations entre le présent et le passé de l'artiste. On découvre son univers qui est vraiment exceptionnel et vaste à travers son entrepôt où il circule en bicyclette tellement c'est immense et son terrain galerie d'exposition de 40 acres où, qui est parsemé de ses sculptures et où il y a des bâtiments qui sont érigés afin d'abriter d'autres de ses œuvres. Puis tout ça habite avec son environnement, avec la nature. Ses œuvres sont vraiment proches aussi de la nature. Il travaille avec le foin, les arbres, les branches, les écorces, la terre, le plomb, vraiment beaucoup de matériaux comme ça. Alors, Anselm est un artiste habituellement très discret dans sa représentation publique. Puis, en fait, Wenders, le cinéaste, l'a comme un peu convaincu de pouvoir faire un documentaire sur lui. Et Anselm a accepté d'être le sujet en demandant à Wenders d'être surpris. Il ne voulait pas participer au processus créatif, il voulait voir le film seulement qu'une fois que le produit final était accompli. Fait que méga pression pour le cinéaste.
Oui, c'est quand même spécial. En plus, tu sais, des fois, quand le film est à propos de quelqu'un, la personne qui fait la réalisation montre le produit pas fini, justement, pour que s'il y a des choses que la personne veut modifier. Mais là, lui, il était comme, il a lâché prise.
Oui, exact. C'est fou. Puis, tu sais, c'est un défi que peu de gens, je pense, auraient pu relever de cette manière-là. Mais il y a ça qui est assez exceptionnel aussi, c'est que les deux hommes, l'artiste Anselm et le cinéaste Wenders, sont nés la même année, dans la même région, en Allemagne. Fait que c'est sûr qu'ils doivent avoir des souvenirs communs, tu sais, par rapport à l'époque, la situation sociopolitique, etc. Puis ils doivent avoir un background culturel vraiment, vraiment semblable. Et que ce qui est aussi très drôle, parce que dans leur style, ça se ressemble aussi. L'un étant en art visuel, plasticien contemporain, et l'autre étant dans le domaine du cinéma. Les deux sont dans des images assez désolées, des visions d'austérité. Même leurs sujets se ressemblent. Ils parlent de thèmes comme le temps, la mémoire, la perte. Et aussi, ils ont tous les deux un processus assez lent dans leur manière de voir l'art. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la fusion de ces deux grands artistes-là. C'est aussi un film que je dirais qui est très beau parce que Wenders est un cinéaste qui a une imagerie vraiment particulière et vraiment magnifique. Et les œuvres de Anselm sont complètement fascinante et démesurément immense aussi. Donc, tout ça mélangé, ça faisait vraiment une œuvre qui était très intrigante, très fascinante. En fait, c'était fascinant. Par contre, si je veux me permettre d'être un peu critique...
Bien sûr!
Je me suis pas sentie... je me suis sentie détachée émotionnellement par rapport au film. Je me sentais pas touchée par Anselm. Il y avait une dureté ou une froideur qui était vraiment... qui donnait qui nous permettait pas de l'atteindre, mais en même temps, on sentait que le cinéaste Wenders voulait vraiment qu'on soit touché à certains moments. T'sais, c'est comme si j'avais senti le besoin d'extirper des larmes au public, une forme de manipulation qui, pour moi, devient comme désagréable rapidement. Puis, ben, c'est un parcours de la vie d'un artiste qui a été extrêmement... qui a réussi là, de manière exceptionnelle, là, qui a de l'argent maintenant, qui est encore vraiment encore en demande. Puis il y a un certain côté de moi qui était un peu fâché qu'on fasse encore un film sur un homme blanc, successful. Fait que il y avait ça qui, ouais, qui venait titiller mon petit côté féministe. Et moi, ouais, qui aurait aimé peut-être que le spotlight soit mis ailleurs.
Ben oui, avec raison. Puis c'est ce que j'allais dire. Ah, mais tu sais, même si t'avais pas été touchée, si c'était fidèle au personnage, peut-être que c'est ça le but aussi, c'est qu'on ressente la froideur. Mais là, j'avoue que, tu sais, je déteste ça aussi, là, quand je ressens qu'on veut me faire pleurer. Ça fait l'effet inverse complet, là.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un parcours qui est vraiment intéressant parce que ces deux hommes-là sont nés comme, je pense, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est de vivre avec une histoire en Allemagne. C'est de vivre avec l'histoire d'être allemand, d'avoir commis un génocide, puis de grandir avec cette histoire-là qui aurait vraiment voulu être enterré en Allemagne à l'époque. Fait que les deux ont comme voulu ressortir cette histoire-là, que ça tombe pas dans l'oubli, mais à leur manière. Fait que ça, c'est le côté vraiment intéressant. Mais c'est ça. J'avais l'impression que c'était un peu une rétrospective de vie de deux messieurs de 78 ans, tu sais, qui ont fait ça ensemble. Puis c'est vraiment correct. Mais je me suis dit, je ne suis peut-être pas le public cible.
Tu t'es pas senti touchée nécessairement.
Hein? Bien, beau film. Je pense que ça vaut la peine de le voir. Peut-être que, aussi, je ne suis pas assez artistique pour être fascinée d'une manière admirative
oui, je comprends.
De cette personne-là. Là, j'étais comme...
C'était un peu imperméable, peut-être. Ouais.
J'étais fascinée, mais je n'étais pas admirative. Puis je sentais qu'il y avait une volonté d'admiration ou de... vénération un peu de cette personne-là qui est clairement un artiste plus grand que nature, mais ouais.
Ouais, c'est intéressant. Je me demande si le cinéaste avait, lui, cette relation un peu admirative avec l'artiste, puis que ça a transparu dans ce qu'il voulait transmettre, mais qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a cette relation-là avec cet artiste-là, puis que ça fait que... Je sais pas comment expliquer ma pensée, mais si tu regardes un film qui a été fait par quelqu'un d'admiratif, bien, tu seras peut-être pas touchée parce que toi, t'as pas cette relation avec l'artiste.
Oui, exact. Puis c'est vrai que je connaissais pas vraiment son œuvre. Je connaissais le nom de l'artiste. J'avais sûrement déjà vu de ses œuvres, mais je le connaissais pas. J'avais pas suivi son parcours. Puis c'est aussi un parcours qui a pris son essor à une autre époque aussi. Fait que c'est certain que c'est ça. Encore une fois, je n'étais peut-être pas la personne idéale pour être subjuguée d'admiration... en visionnant ce film.
Ben oui, puis c'est bien correct aussi. Puis c'est le fun de réfléchir à ça quand on regarde quelque chose, puis d'y réfléchir de façon critique.
Mais cela dit, je le conseille quand même parce que c'est un beau voyage. C'est un beau voyage visuel. C'est gros, là. C'est gros, son entrepôt. C'est gros qu'il se promène en vélo. Dans l'immensité de tout ça, ça paraît irréel, son immense terrain. C'est fascinant. Puis moi, je l'ai vu au ciné du musée et c'était très le fun, mais je sais qu'il est aussi présenté en 3D dans d'autres cinémas.
Ah oh, ouais?
Ouais, en 3D avec des petites
lunettes. Ouais, ça doit être intéressant.
Ça doit être... tu dois rentrer dans son univers d'une autre manière encore plus. Fait que Anselm, A-N-S-E-L-M, du cinéaste Wenders.
Super, merci beaucoup pour cette petite critique.
Merci à
toi.
Et
on approche bientôt de la fin de l'émission, fait que je vais vous dire une belle fin de semaine et on finit avec All Hands Make Light, We Live on a Fucking Planet and Baby Does the Sun. Une recommandation de Alex. Donc, une belle fin de semaine à tout le monde et à la semaine prochaine.
Buenas noches, Montreal, y bienvenidos a Macondo y el Club de los Feos. 3 horas de música hoy, 19 de enero del año 2024. DJ Irwin contigo hasta las 10, saludando a mi amigo Juan Carlos Quintana. No estamos peleados, no me hagan pensar eso, que da la casualidad que cuando Juan Carlos puede venir a la estación, yo no puedo, o cuando él no puede, yo puedo. Pero no, próximamente, el junte, la reunión, de nuevo, Juan Carlos Quintana y DJ Irwin aquí en Macondo y Club de los Feos. Bienvenidos entonces, hoy tenemos 3 horas de música, espero que les va a gustar el show. Mucha música, unos cuantos saludos ahí, si quieren pasar unos saludos, llámenos a nuestro teléfono, contáctenos por Facebook, ahí les vamos a dar toda la información entre un rato. Pero por el momento empecemos con salsa para el que sabe, y claro, el que no, que aprenda.